Armand Sylvestre, conte audacieux. Nos ancêtres. Ce n'est pas sans une émotion profonde que je le revis, ce vieux château de Cul-en-Sac, où tout enfant j'avais joué à l'ombre des ruines, indifférent aux grands souvenirs qu'il rappelle, mais pris de soudaine terreur quand tout se faisait sombre à ses pieds, le soleil passant derrière, et quand l'image noire et dentelée des tours s'allongeait sur le sol, fantastique et grimaçante. Une grande mélancolie semblait descendre alors, avec le soir, des crêtes déchiquetées, et dans l'Ariège coulant en bas, les dernières pierres éclairées et tout éclaboussées de lumière rouge faisaient des taches brillantes, semaient des rubis dans l'obscur et frémissant reflet des hauts peupliers, secouant comme des vieillards leurs têtes argentées. Et l'une des légendes, contée auprès de la haute cheminée durant les veillées hivernales, hantait mon front, mêlée aux mythologiques récits de l'Ancien Testament, dont on farcissait ma jeune mémoire. Il s'en fallait cependant que le manoir fût abandonné. Dans la grande tour carrée, le dernier descendant de l'illustre nom des Cul-en-Sac avait installé des appartements fort confortables, où, antiquaire intéressé, il avait réuni toutes les vieilleries augustes intéressant l'histoire de sa race, et le soin de ce musée occupait les loisirs de cet inoffensif gentilhomme, pendant les longs mois surtout, où du côté du Salle et de Tarascon, le vent ne venait plus que chargé de neige, ourlant de blanc tout ce paysage, et s'amoncelant au relief estompé du castel, n'apparaissant plus que comme un lazare, étirant ses longs bras des blancheurs du linceul. Ce suprême Cul-en-Sac était un gros homme avenant et sans rancune contre les révolutions, prenant son parti, au fond, de la perte des privilèges par la consolante pensée de ne pas aller en Palestine. Il menait là une vie tout à fait calme, et n'ayant hérité de ses aïeux qu'une médiocre fortune, augmentait ses revenus par l'exploitation de ses vignobles. Le vin de Cul-en-Sac n'était pas sans renommée aux environs. D'aucuns osaient le comparer au Vilaudry, qui règne encore dans les caves languedociennes. En ce temps ancien dont je parle, et où j'apprenais encore mon rudiment, la femme de ce haut bureau, Madame la marquise de Cul-en-Sac, était une toute jeune personne, une vision de printemps dans un décor d'automne, un rosier en bouton parmi les pins, la plus douce image qui me soit restée dans la mémoire, et précocement amoureux, j'avais envie de baiser le sable là où elle avait passé, traînant sa robe de fée avec de gros bouquets entre les bras. Le ménage était très bon pour moi. Monsieur me racontait des batailles où ses grands-pères avaient tué des sarrasins, et madame me donnait des friandises que je n'osais pas manger, et que je cachais comme des reliques pour n'y toucher que du bout des lèvres. Aux menteuses sucreries qui m'apprirent la douceur perfide du baiser. 15 ans plus tard, j'en avais 22, au sortir de l'école, prenant de longues vacances et bien méritées, je fis au château ma pénultième visite, celle que je veux vous raconter, et dont les détails ne se retracèrent pas moins vivement dans mon esprit quand j'y revins, il y a quelques jours, en pèlerinage. Ah, le marquis avait beaucoup vieilli. Il avait l'air d'un potiron un peu moisi dans le haut. Mais si la marquise avait changé, ce n'était pas aussi cruellement à son désavantage. La plénitude était venue à ses formes demeurées aristocratiques. Une plénitude ferme qui donnait à sa peau des étincelles de santé. Quelque chose d'éblouissant, comme une neige dure et vivante. Ce grand éclat de maturité ensoleillée vous enveloppait tout d'abord comme un rayonnement. L'épaississement insensible des traits en avait respecté les lignes, creusant seulement çà et là, aux joues d'un rose légèrement ombré, et au menton grassouillet seulement, des fossettes circonflexes comme un vol d'oiseau sur la candeur d'un nuage. Les lèvres s'étaient plus largement empourpées, avec plus d'abandon et d'attirance loyale dans le sourire. Elles aussi avaient semblé s'épanouir pour la suprême caresse. Et les yeux sur qui ne pesait plus le voile à peine soulevé encore des anciennes virginités, c'était aussi plus largement ouvert, comme des volubilis à l'aurore, toujours d'un bleu exquis, mais plus chaud, avec un étincellement de sable d'or dans le fond. Un grand charme voluptueux se dégageait de sa marche, délicieusement alourdi par un embonpoint aimable. Et beaucoup de majesté lui était venue de sa gorge plus haut dressée, de son ventre mieux accusé sous la robe, de ses hanches dont l'amphore s'était dilatée, des assises naturelles dont son être, autrefois fragile, avait été consolidé. Je demeurais devant elle dans un trouble inexprimable, sentant toutes mes adolescences s'élancer en moi vers cette beauté violemment désirable, tous mes désirs fous d'écolier grandi montés vers cette idole de chair. Et ma main frémit dans la main qu'elle me tendit avec un je ne sais quoi de bon garçon, qui n'eût dû inspirer cependant que des camaraderies. Mais je me sentis devenir tout à fait insensée, quand son bras s'étant posé sur le mien, je respirais le parfum grisant de sa chevelure noire, où mourait une fleur de grenadier, et que chacun des mots insignifiants d'ailleurs qu'elle me disait me fut une bouffée vague de son haleine tiède, effleurant une odeur de baiser. « Vous restez à dîner avec nous, » me dit le marquis, avec une navrante bonhomie. Et il ajouta, parlant à sa femme, « Tu sais que je garderai aussi Calpestro, qui doit venir conclure avec moi tout à l'heure. » La marquise fit une légère, mais très sensible moue. En même temps, M. Calpestro entrait, et le marquis lui fit l'accueil le plus empressé du monde, bien que le nouveau venu n'eût rien des façons apparentes d'un Montmorency. « C'est, me dit Madame de Culensac, quand ils furent sortis ensemble, un fort habile commis voyageur en vin, et qui en prend des quantités considérables à mon mari. Il vient de nous en placer beaucoup, et nous lui devons bien une politesse. » N'était que j'eusse préféré de beaucoup prendre ce repas en tête-à-tête avec la marquise, je n'eus pas trop à regretter pendant ce dîner la présence de ce convive étranger comme moi-même. Monsieur Calpestro avait une façon d'esprit assez gros, qui étonnait son hôte, scandalisait légèrement son hôtesse, et m'amusait, je dois l'avouer, infiniment. Cette invasion de modernité violente, et quelquefois cynique, dans ce temple solennel du passé, ne manquait pas d'un certain charme sacrilège. « Et maintenant, dit au voyageur Monsieur de Culensac, je vais vous montrer ma collection. » Et une seconde fois il l'emmena, ce qui me parut une bienheureuse idée. Car, tout en écoutant les calembres d'Aine de ce farceur ambulant, j'avais goûté mille joies encourageantes et occultes dans le voisinage à table de la belle marquise. Il ne reste plus un seul Culensac aujourd'hui. Et ce que j'appris depuis me dispense de toute discrétion, la délicieuse femme dont je parle ayant laissé dans tout le pays la renommée d'avoir eu une cuisse ne pesant pas une once. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais on dit encore dans toute la région, cocu comme le marquis. Je n'ai donc point à me vanter d'une difficile conquête. Et puis après, enfoncer une porte ouverte n'est pas une sottise, quand derrière cette porte s'ouvre le séjour d'un paradis. C'est même une politesse. Jamais je ne sentis autant le néant de la jalousie qui tourmente les hommes. Que m'avaient pris des faveurs qui me furent accordées en ce jour, ceux qui, paraît-il, les partageaient avec moi. Une table d'hôte merveilleusement servie n'est-elle pas préférable au dîner misérable qu'on feint en vain de trouver meilleur parce qu'on le prend seul? En dehors des délices égoïstes et mortels que la possession unique assure seule, à une passion définitive et sans merci, une promiscuité sans emphase me paraît ce qu'il y a de mieux et de plus sage au monde. Ô châtelaine exquise, qui frôliez mon pied de votre soulier mignon, durant que votre époux découpait douloureusement une bécasse, qui, le dessert venu, laissiez ma main tremblante chercher, à travers vos jupons et sous la serviette, jusqu'où montait la rondeur divine de vos cuisses, qui, les liqueurs versées, croisâtes votre main avec la mienne, pour me rendre ma visite, pour ce que vous n'étiez pas avare avec les autres de cette monnaie de petites caresses. N'en soyez pas moins béni devant la postérité. Car vous étiez une nature tout à fait loyale, ô défunt châtelaine. Car une fois ces deux importuns décampés, vous ne fîtes pas faux bond à toutes ces promesses obscures. Vous ne laissâtes pas protester ces vagues lettres de change. Vous payâtes la dette contractée par toutes ces espérances, argent comptant. Puisque nous parlons d'écus, je proclame que je n'en ai jamais vu de plus beau et de plus rond, sinon de mieux sonnant que le vôtre. À la belle pièce, et dont la pile ne valait pas moins que la face. Puisse le destin m'en compter de pareil, quand je suis au lit par exemple, puisqu'on dit que la fortune vient en dormant. Une fois, que dis-je, trois fois de plus on put dire ce soir-là. Cocu comme le marquis. Quand le bon ton et la prudence me firent un devoir d'aller rejoindre au musée particulier du marquis, monsieur de Culensac et son hôte, j'entendis le dialogue suivant. « Cette épée, disait le marquis, est celle avec laquelle Guy de Culensac, en 1322, fendit à la bataille de Taïfès la tête d'Anguenard de la Pétardière. « Oh !» répondait quelque chose ressemblant fort à un bâillement mal étouffé et qui sortait de la bouche de Calpestro. Ce bouclier était au bras de Gaspard de Culensac, dit Malvès, quand en 1422 il passa à la nage le Guadalquivir pour rejoindre notre armée en déroute. Ah ! Adhémar de Culensac portait ce casque en 1517, quand le premier, dans une fausse alerte, il s'écria « Sauf qui peut !» dans une voix de tonnerre. Ah ! C'est en retirant ce cuissard, pour user galamment du droit de jambage, qu'en 1653, Hercule de Culensac, dit le bien-aimé, se foula un air et demeura boiteux toute sa vie. Ah ! Mais peut-être, fit tout à coup le marquis après une légère pause. Tout ce que je vous dis là, mon cher monsieur Calpestro, ne vous intéresse qu'à moitié. Le loustique eut un sourire tout à fait bon enfant et répondit. Que voulez-vous, monsieur le marquis ? Vous pardonnerez à ma franchise, mais je vous avouerai que je me fous comme d'une guigne de mes propres ancêtres. Alors vous pensez, si ceux des autres, je m'en fous encore davantage. Excuse au lecteur la liberté de son langage.